Les coqs chantent les jours pareils, tous et debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons parler de transformation structurelle de l'agriculture en Côte d'Ivoire avec les premiers responsables du ministère ivoirien de l'agriculture et du développement rural, présents au dernier salon international de l'agriculture de Paris. Les responsables administratifs parlent de programme national d'investissement agricole, en abrégé PNIA. L'affaire est d'envergure continentale. Développer vraiment la production agricole en vue de combattre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, cela s'est décidé au niveau des chefs d'État de l'Union africaine. Ensuite, les organisations régionales ont pris le relais. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu un programme régional d'investissement agricole ou PIA, élaboré sous l'égide de la CEDEAO, pour la conduite de sa politique agricole ECOWAP. Puis chacun des 15 États membres a élaboré son programme national d'investissement agricole ou PNIA. En Côte d'Ivoire, il y a eu un PNIA 1 d'un coût initial de 2040 milliards de francs CFA et couvrant la période 2012-2017. Ce programme visait à couvrir les sous-secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la gestion de l'environnement, les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les problématiques de développement rural et de résilience des populations. Aujourd'hui, il est question de poursuivre sur cette lancée avec un PNIA 2, couvrant la période 2018-2025 et qui va coûter 11 905 milliards. À tout seigneur et tout honneur, entretien avec le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly.
Vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, à un moment donné, les chefs d'État ont voulu savoir comment faire décoller définitivement le continent au niveau de la croissance économique et de la prospérité partagée. Et se sont appuyés sur le NIPAD qui a mené une étude qui a conclu que le moteur de la croissance économique en Afrique demeure l'agriculture pour les 20 prochaines années.
Donc ils ont imaginé ce PNIA.
D'abord ils ont commencé par dire que si nous voulons baser le développement économique sur le secteur agricole, il faut qu'il y ait une croissance agricole. Une croissance agricole qui elle-même va induire une croissance économique dans les États. Et pour obtenir une croissance agricole d'au moins 6% dans chaque État, il fallait que chaque État investisse au moins 10% de ses ressources nationales dans le secteur agricole.
Ah oui, on se rappelle de cette fameuse déclaration de Maputo.
Exactement, c'était en 2003. Et l'objectif de ces investissements était aussi de réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 90 pour atteindre l'objectif de développement numéro 1, l'OMD 2A. Pour ce faire, ils ont demandé que chaque État construise un programme et que les États se mettent ensemble pour qu'il y ait un programme régional de manière à avoir une synergie entre les programmes nationaux d'investissement agricole dans les différents États. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, la modélisation a montré des choses importantes. La première, c'était que compte tenu du niveau de pauvreté qui était le nôtre, au moment où nous lançons le PNIA, parce que nous avons connu une crise, on avait besoin de plus d'efforts pour réduire le taux de pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 90 que les autres États. Donc ce n'était pas une croissance agricole de 6% qui suffirait pour le faire chez nous, mais plutôt une croissance agricole de 9%. Ce qui fait que pour qu'on ait cette croissance agricole de 9%, les financements requis étaient bien plus importants. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, chez nous, on a pris toutes les spéculations et on s'est rendu compte que les spéculations qui sont les plus porteuses de croissance et capables de réduire significativement la pauvreté, c'était les productions vivrières.
C'est C'est vrai qu'on avait mis l'accent à un moment donné sur les cultures d'exportation.
On met toujours l'accent sur les cultures d'exportation, seulement on ne met plus l'accent sur les cultures d'exportation au détriment des cultures alimentaires. Les cultures d'exportation restent importantes pour nous permettre d'avoir des recettes d'exportation afin de soutenir le développement, les investissements de développement dans notre pays. Mais il nous faut aussi produire pour la satisfaction de nos besoins alimentaires. Cette modélisation a montré que le cacao venait en 7e position, loin derrière l'igname, le manioc, le riz, la banane plantain et les produits de la forêt.
Je confesse que si on m'avait demandé personnellement, j'allais mettre le cacao en tête.
C'est ce que tout le monde pense. C'est vrai que le cacao nous procure de bonnes ressources d'exportation, mais le cacao ne réduit pas plus la pauvreté que la culture de l'igname ou du manioc. Parce qu'il y a une multitude de personnes qui gagnent leur vie dans la chaîne des valeurs au niveau de l'igname, de la banane plantain, du manioc, plus que dans le cacao et le café.
Et c'est tout à fait normal parce que quand on va au village, on récolte le cacao, on le fait sécher, et puis il s'en va. Alors que le manioc, il y a les transformations à kéké, gari, tout ça.
Exactement. Et vous avez toute la chaîne, vous avez des petits, ne serait-ce que ceux qui font le transport. Vous avez beaucoup, une multitude de jeunes, de personnes qui sont impliquées dans le transport bord-champ jusque dans les espaces de commercialisation. Et nous, la modélisation ayant conclu de cette façon, nous avons mis l'accent effectivement sur ces cultures pour qu'elles entraînent une croissance agricole assez forte.
Alors, il y a eu ces premiers résultats avec le PENIA 1. Alors, aujourd'hui, on parle du PENIA 2.
Ce que nous poursuivons comme objectif, c'est la transformation structurelle des économies en Afrique.
C'est l'ossature même que vous voulez transformer.
Oui. Ce que nous visons, c'est que les économies africaines ne doivent plus être des économies fragiles. Il ne suffit pas de les faire décoller, mais il faut les faire décoller durablement. Et les diagnostics ont bien montré que le point d'appui, c'est le secteur agricole. Ensuite, lui va entraîner le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais déjà au niveau du secteur agricole, il faut que nous transformions la structure de notre économie agricole. Il faut la faire passer d'une économie agricole de subsistance à une économie agricole de marché. Il faut faire en sorte que le secteur agricole soit rentable pour le producteur. Vous voyez, il faut faire en sorte que ce soit une agriculture modernisée, qui ne dépend plus de la pluie, mais qui dépend d'une maîtrise de l'eau à l'avance.
Il est vrai qu'on ne peut contrôler réellement une planification de la production agricole si l'agriculture dans les pays africains reste essentiellement pluviale. En d'autres termes, sans irrigation et sans maîtrise des eaux, le producteur est totalement dépendant des caprices de la météo.
Vous avez raison, mais j'ajoute que moins de 10% des récoltes que nous avons sont obtenues à partir de semences non certifiées. Donc il nous faut des semences de qualité. Il faut améliorer la qualité de nos semences. Nous avons des chemins à faire en Afrique. Il faut améliorer la maîtrise de l'eau. Il faut mécaniser, il y a des mécanisations adaptées à la typologie de nos exploitations. Mais mieux, la vraie transformation, le saut qualitatif que notre secteur agricole doit faire, c'est de ne plus confiner l'agriculteur aux travaux champêtres. L'agriculteur de demain, c'est celui qui sera capable d'ajouter de la valeur à ce qu'il sort du champ. C'est-à-dire la première transformation. C'est là qu'il y a le profit, c'est là qu'il y a la valeur ajoutée importante. Le but que nous poursuivons, c'est d'avoir une agriculture moderne qui nourrit son homme et qui permet de propulser l'économie, les économies de nos États et faire en sorte de créer des emplois et surtout de transformer localement nos produits. Et je peux vous dire, si vous prenez l'histoire des grandes puissances, que ce soit même l'Europe après la guerre, c'est l'agriculture qui a permis à tous ces États-là d'amorcer le développement. Évidemment, l'agriculture est le point d'appui, mais après, la part des services devient plus importante. Donc en termes relatifs, on peut se dire, bon, dans ces pays, on ne voit pas le poids de l'agriculture. Pourtant, si l'agriculture disparaît, tout ça va s'effondrer.
Donc c'est pour ça que depuis que vous êtes à ce Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2018, vous enchaînez les rendez-vous, vous êtes tout le temps parti.
Oui, nous sommes venus ici à Paris comme nous l'avons fait pour le programme de première génération. Nous sommes ici en prospection. Nous sommes venus promouvoir le deuxième programme d'investissement, le programme d'investissement de deuxième génération auprès des partenaires techniques et financiers, mais surtout auprès des investisseurs privés. Et ce que nous avons noté, c'est que la diaspora ivoirienne s'intéresse aussi au secteur agricole. Et compte tenu de tout ce qui se passe au pays en termes de restructuration des filières, en termes de gouvernance du secteur, ils sont intéressés d'investir dans le secteur agricole. Et donc nous partons rassurés et nous allons essayer de leur donner un cadre propice pour qu'ils puissent, pour ceux qui le souhaitent, investir dans leur pays d'origine, dans le secteur agricole.
Je vous remercie, Monsieur le Ministre.
C'est à moi de vous remercier.
La question à présent, c'est comment ce programme qui induit un total bouleversement dans les façons de travailler est rapporté au niveau des organisations du producteur. Pour y voir un peu plus clair dans une affaire aussi vaste, il nous faut les explications du Dr Noun Koulibaly, qui est directeur général de la planification, des statistiques et des projets du ministère ivoirien de l'agriculture et du développement rural.
C'est vraiment... de faire une rupture avec les façons traditionnelles de faire l'agriculture et qui font que dans beaucoup de nos pays, on ne peut pas avoir la production en tout temps. Donc pour nous, la transformation structurelle doit permettre effectivement d'adresser cette question, mettre en place tous les mécanismes et les stratégies de production qui permettent de pouvoir produire en tout temps, quelle que soit la saison. Aujourd'hui, il y a toutes les technologies possibles, nous sommes en train de les mettre en œuvre. C'est de faire en sorte aussi que, avec le changement climatique, qu'il y ait des semences de qualité qui soient résistantes, plus résistantes. Donc, il y a également ce travail-là qui concerne tout ce qui est changement structurel. Mais le changement structurel implique aussi que les groupements de producteurs soient mieux structurés pour que ce soit de bons partenaires de l'État, mais aussi de bons partenaires du secteur privé classique. Quand les gens viennent sur le terrain pour travailler avec des paysans, il faut qu'on trouve des groupements en face qui sont capables de faire la négociation. Donc, il y a tout un travail de structuration des filières qui est important dans l'aspect de changement structurel. Donc sur le terrain, pour l'instant, nous avons commencé déjà à travailler sur l'une des zones. Et donc il y a 9 zones dans le cadre de PENIA 2, 9 zones que nous avons déterminées. Et ces zones de production et de croissance agricole, il y a une pour laquelle on a commencé concrètement à travailler. Déjà le mouvement concernant la structuration des paysans a démarré avec le diagnostic pour voir quel est l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui ces groupements dans cette zone-là. Et puis après ce diagnostic, il y aura bien sûr toute la question des actions et des stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Nous avons commencé également à travailler dans la zone, à quadriller la zone pour voir partout où il y a des points d'eau qui peuvent être utilisés pour faire des aménagements pour que effectivement la productivité au niveau des paysans soit plus élevée. Donc qu'ils ne soient pas des gens qui soient obligés d'attendre qu'il pleuve pour commencer à produire. Tous ces points d'eau ont été recensés. Il y en a plus de 25 dans la zone, c'est la zone de Yamoussoukro. Il y en a plus de 25 dans cette zone-là. Et tous ces 25 vont être réhabilités pour permettre à ce qu'on ait une meilleure maîtrise de l'eau. Nous avons aussi commencé dans cette zone-là à déterminer les itinéraires de pistes à ouvrir ou à réhabiliter. Ce n'est pas anodin. On ne fait pas les pistes de dessertes agricoles parce que juste il faut faire des pistes. On fait les pistes en fonction de la réalité de la production agricole. Donc il y a toute une stratégie qu'il faut faire avec les paysans. Aujourd'hui, votre production est peut-être localisée dans tel endroit ou tel autre endroit. Mais dans les 2 ans à venir, peut-être que la production va shifter, va aller aussi vers ces endroits-là, ainsi de suite, avec de nouvelles créations de plantations. Donc tout ce travail de planification est fait avec ces paysans qui nous permet de pouvoir dire, dans les 2, 3, 4 ans à venir, voici les itinéraires pour lesquels on va ouvrir des ouvertures de pistes de dessertes agricoles. C'est également important, non seulement pour l'approvisionnement des marchés, pour les consommateurs directs, mais aussi pour approvisionner ceux qui vont venir payer ces productions et pouvoir les transformer. Dans la transformation structurelle de l'économie, il y a effectivement l'aspect de transformation de nos produits agricoles. Il faut qu'on réussisse, en tout cas à un moment donné, à pouvoir transformer une bonne partie de la production dans nos zones de production. Ça permet non seulement de créer des emplois, c'est vrai, mais ça permet surtout d'ajouter de la valeur et de pouvoir partager cette valeur-là à l'ensemble des acteurs qui sont sur la chaîne. Donc, dans la zone du Yamoussoukro dont je parle, nous avons déjà identifié la zone de transformation où les privés peuvent s'installer pour faire la transformation agricole. Et il y a des travaux aujourd'hui qui sont en cours sur cette zone.
Vous avez parlé de 9 zones. Alors, quelles sont ces zones et comment vous déterminez une zone?
Si on prend les zones, on essaie de voir est-ce que les conditions agronomiques, les conditions écologiques, est-ce que toutes ces conditions-là sont similaires? Est-ce que la manière dont les producteurs travaillent dans cette zone-là, est-ce que c'est plus ou moins similaire? Quels sont les types de cultures qui sont dans ces zones qui permettent effectivement de pouvoir travailler sur un plus grand nombre de cultures en même temps que de travailler de façon parcellaire? Donc c'est un ensemble de critères comme ça qui ont été regardés. Ensuite, nous sommes partis en séminaire avec tous les experts au niveau national, plus des experts que nous avons recrutés au niveau international et qui nous ont appuyés, bien sûr, à pouvoir mettre la cohérence dans ces zones-là. Je vous avoue, ça a été un exercice fastidieux, mais au finish, nous sommes très contents du résultat parce que les zones que nous avons déterminées, lorsque nous avons fait la restitution au niveau des paysans, tout le monde était franchement d'accord avec ces zones. L'avantage de ces zones, c'est que ça nous permet de créer des micro-économies au niveau régional et de pouvoir faire en sorte que ces économies-là puissent se communiquer entre elles. De telle sorte que si dans une zone donnée, qui se trouve être une zone de production excédentaire, riz par exemple, et qu'il y a une autre zone à côté qui est une zone déficitaire, on met en place les canaux qu'il faut pour que le commerce intra-région puisse être favorisé. Et ça, c'est absolument important. Ça nous permet d'exploiter les avantages absolus ou relatifs, bien sûr, les unes par rapport aux autres.
Alors, j'ai lu vos documents avant de venir. Il y a un mot qui a retenu mon attention, c'est agropole.
Oui, alors, agropole, nous allons changer l'appellation. En fait, quand nous avons, dans un premier temps, fait les 9 zones, ces zones-là, on les a appelées des agropoles. Et pour nous, la définition de l'agropole était très simple. Pour nous, l'agropole consistait en une zone dans laquelle on met en œuvre tout ce qu'il y a comme moyen de production, tout ce que l'État doit faire pour que les moyens de production soient en place afin que les producteurs puissent avoir des meilleures productivités. Et on met en place également tout ce qu'il y a comme moyen pour que les entreprises privées puissent avoir le courage, j'ai dit le mot le courage, parce qu'en fait, quand vous venez dans une zone que vous n'avez pas le minimum nécessaire pour vous installer, ça grève votre coût de production. Donc ce que l'État fait dit, bon, je vais prendre dans cette zone-là une portion bien déterminée et je vais mettre dessus tout ce qu'il y a comme plateforme pour encourager les entreprises du secteur privé à venir s'installer. On va mettre également en place tout ce qui est moyen logistique pour que, bien sûr, le flux de marchandises puisse se faire très correctement entre, bien entendu, le champ et puis ceux qui payent. Donc, c'est vraiment une intégration sur toute la chaîne de toutes les activités agricoles dans la même zone, mais depuis la semence jusqu'à la transformation. Alors, il se trouve qu'une fois qu'on a fini ça, on regarde dans les autres pays, bien sûr, et on se rend compte qu'il y a aussi des termes appellation d'agropole dans d'autres pays qui ont aussi mis en œuvre aussi des agropoles. Et on se rend très vite compte que si on regarde de pays à pays, il y a des différences entre les agropoles. Donc pour ne pas qu'il y ait de confusion, finalement nous avons convenu d'appeler ça des zones spéciales de production et de croissance agricole.
Agropole ou zone de transformation agricole, il concentre des ressources et crée un environnement favorable dans les régions à fort potentiel en fournissant le regroupement, la transformation, les informations sur le marché, les liens commerciaux et les liens entre PME pour les agriculteurs et les agro-industries. Ces zones intègrent les questions de production agricole aux autres services sociaux de base, c'est-à-dire eau, électricité, santé et éducation, aux services techniques, à la finance de proximité, à la mécanisation agricole, la formation professionnelle, la commercialisation et la valorisation des produits agricoles sur place. Toutefois, même en visant la transformation structurelle du secteur agricole, ce PNIA ne perd pas de vue la nécessité de la préservation de l'environnement, même s'il y a des efforts d'adaptation au changement climatique.
Ce que nous faisons maintenant, actuellement, c'est que quand un investisseur privé vient s'installer, ce que nous lui demandons, c'est que ce qui l'intéresse, c'est le fruit qui sort de la terre. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la terre en tant que telle. Il y a des paysans en place. On les organise, ces paysans travaillent. Et quand ils sont organisés pour faire la culture de la terre, nous-mêmes, nous déterminons avec les paysans des poches, des zones que nous appelons des zones de biodiversité. et on leur demande de ne pas mettre de la culture dans cette zone. Mais si vous prenez plusieurs paysans et que vous avez des petites poches comme ça de biodiversité, vous voyez ce que ça fait. C'est énorme du point de vue sur la surface.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Le PNIA2 se compose de 6 programmes articulés autour du renforcement et du développement de la vache, ajouté agro-sylvopastorale et halieutique, le but ultime étant de garantir le développement rural et le bien-être des populations. Diakaria Koulibaly est directeur de la planification, des statistiques et des programmes du ministère ivoirien de l'agriculture et du développement rural. C'est-à-dire que c'est ce service qui détient toutes les données chiffrées et c'est encore ce service qui élabore les programmes du ministère et c'est toujours ce service qui suit l'exécution des programmes et projets.
On garde le gros sou, mais surtout on parle d'actions à mener au profit des populations ivoiriennes.
Au profit premièrement des producteurs.
Au profit des producteurs. Comme vous le savez, il y a eu des crises alimentaires.
Et il y en a toujours.
Il y en a de moins en moins.
Je vous le concède.
Voilà, puisque à partir de ces engagements, les responsables politiques ont compris que pour qu'il y ait la paix, il faut que chacun mange à sa faim.
Mais sinon tout le monde est fâché.
Sinon tout le monde est fâché. Et c'est pour ça que des programmes ont été initiés pour booster le développement agricole. Nous sommes partis d'un seuil de pauvreté et surtout avec de la sous-alimentation à un processus où on peut dire en Côte d'Ivoire, chacun, même si encore il y a des zones peut-être de mauvaise nutrition, mais au moins chacun trouve à manger. Et donc c'est une question de nutrition, ça vous semble de plus en plus. Dans le programme de développement agricole, on associe la nutrition.
Je veux essayer de voir ce que vous me dites, c'est-à-dire, il y a des cas où les denrées ne sont pas là, il n'y a rien dans l'assiette. Il y a des cas où les denrées sont là, mais mal utilisées.
Les cas des denrées sont là, mais par exemple, si vous ne mangez que de l'igname,
matin, midi et soir.
Matin, midi et soir, vous n'ajoutez pas de protéines animales. Vous n'ajoutez pas des végétaux, votre alimentation est déséquilibrée. Vous aurez la force, mais les nutriments dont l'organisme a besoin ne seront pas fournis. Vous aurez de l'énergie, puisque les féculents donnent de l'énergie. Vous aurez beaucoup de graisse, mais vous pouvez vous porter bien, mais vous n'êtes pas équilibré. À la moindre intempérie, vous tombez malade.
D'accord. Maintenant, les chercheurs se sont réunis, les gros cerveaux, on dit voilà, les villageois, les populations sont pauvres, les municipalités sont pauvres, les ministères sont pauvres, l'État n'a pas toujours le budget qu'il faut. Il se trouve que tout est prioritaire dans nos pays, tous les secteurs sont prioritaires et qu'il faut de l'argent, d'où on fait appel à des partenaires autres, en tout cas relevant du privé. Et c'est l'idée du partenariat public-privé. Est-ce que je résume bien?
Il faut, par exemple, les partenaires privés. Mais les partenaires privés ne viennent que lorsqu'il y a une base qui est mise en place. Vous avez vu les routes. Aujourd'hui, c'est fait en partenariat public-privé. Le partenaire dit, je viens avec mon argent, mais il y a des facilités que l'État doit faire. Si on veut faire du riz, le partenaire privé peut demander à ce qu'il y ait, par exemple, les éléments de base, tels que les barrages agro-hydrauliques, par exemple, les canalisations. Ça peut être du ressort de l'État. Mais maintenant, le privé va venir avec son argent pour développer ce secteur, en apportant, par exemple, de la semence améliorée, en garantissant des prix quand même aux producteurs, ainsi de suite. Or, s'il n'y a pas ce partenariat public-privé, il devient difficile pour l'État d'avoir l'argent nécessaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, on sort d'une crise politique de 2011. Après 2011, bon, tous les secteurs sont au rouge, donc il faut beaucoup d'argent.
Depuis que vous êtes à Paris, est-ce que ça marche sans trahir des secrets?
Oui, ça marche puisque nous avons rencontré plusieurs partenaires. Il y a certains partenaires également qui viennent nous voir. Nous avons vu, par exemple, l'AFD pour faire le point sur l'état d'avancement des projets qu'ils financent au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu un certain nombre de partenaires privés, tels que le SPES qui était ici avec le ministre, qui fait le salon des ressources animales à Rennes, spécialiste dans ça. Donc, il y a beaucoup de contacts qui doivent être concrétisés dès notre retour.
Je vous remercie.
Merci, monsieur.
Nous y étions en compagnie des premiers responsables du ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement Rural qui nous ont parlé du Programme National d'Investissement Agricole ou PNIA2, un programme national qui a pour objectif la transformation structurelle de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Nicolas Benita, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr, et vous pouvez également consulter notre page Facebook Le Coq Chante. Avant de se quitter, toujours ce petit rappel, vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.